Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, le pape Léon XIV vient de nommer une religieuse comme secrétaire de la Congrégation des religieux, c'est-à-dire ayant prétendument autorité sur toutes les congrégations religieuses de l'Église, y compris sur celles qui ont un évêque à leur tête. Son prédécesseur avait déjà nommé une religieuse comme préfète, je mets ça entre guillemets bien entendu, c'est-à-dire chef-présidente de cette même congrégation. Dans la société civile, c'est la même chose, il y a une véritable conspiration contre toute autorité, contre l'autorité du père de famille, contre celle même de la mère de famille, contre celle des gouvernants, tant politiques que religieux, que dans toute la société civile, qu'on pousse à agir avec vulgarité, à se comporter avec vulgarité, ce qui, évidemment, détruit par là même leur autorité. C'est très grave, parce que toute autorité vient de Dieu, et donc détruire l'autorité, s'attaquer à elle, c'est s'attaquer à l'autorité même de Dieu, et d'une certaine manière à toute influence de Dieu dans la vie des hommes. Nous fêtons aujourd'hui la très sainte Trinité, et il est évident que la très sainte Trinité tout entière est la source de toute autorité. Vous allez voir avec les applications pratiques que je vous suggérerai à la fin du sermon, que ce sermon n'est pas un sermon philosophique ni juridique comme on pourrait le croire, c'est un sermon moral et spirituel. Trois parties dans ce sermon. Tout d'abord, la définition de l'autorité. Deuxièmement, pourquoi Dieu transmet-il l'autorité, la confie-t-il aux hommes? Troisièmement, les applications pratiques. Et je terminerai par des exemples. Premièrement, définition. L'autorité est une participation à la sagesse de Dieu. Participation est un mot théorique, philosophique, mais qui n'est absolument pas difficile à comprendre, c'est un mot du langage courant, c'est recevoir une part de. Dire que l'autorité est une participation à la sagesse de Dieu, c'est dire équivalemment que Dieu communique sa sagesse à des hommes. L'autorité n'est pas le pouvoir, encore moins la contrainte. D'ailleurs, le pouvoir non plus n'est pas une contrainte, il est une application de l'autorité. Certes, tout en bas de l'échelle, il est quelquefois nécessaire d'utiliser la contrainte, mais uniquement envers ceux qui refusent l'autorité et son application concrète, le pouvoir. Les mauvais, les méchants, lorsque leur méchanceté va trop loin. Ainsi, Saint Benoît, qui fut un modèle avec ses monastères, un modèle pour l'organisation de toute la chrétienté, dit qu'un mauvais moine, délinquant, doit être puni, et puni de façon concrète. Certes, ce n'est pas là l'essentiel, puisque Saint Benoît, justement, a eu tant d'influence dans l'Europe et dans l'Église, parce qu'il a enseigné aux hommes à se soumettre volontiers, avec humilité, à l'autorité, c'est-à-dire à la sagesse de Dieu qui leur était transmise, notamment par les supérieurs, par les pères abbés. Les moines sont libres, contrairement à ce que vous pourriez croire ou que certains pourraient croire, les moines sont libres. Le premier degré de l'humilité que définit Saint Benoît, ça n'est pas l'obéissance au supérieur, c'est la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est le respect de l'autorité qui vient de Dieu. Un respect personnel, volontaire. Non pas une crainte servile, bien entendu, une crainte filiale. une crainte volontaire, de bon gré. Et le deuxième degré d'humilité n'est toujours pas l'obéissance, c'est de ne pas aimer faire sa volonté propre, c'est-à-dire ne pas faire de caprice. C'est là encore une soumission volontaire à ce que Dieu demande. Donc l'autorité n'est ni le pouvoir, encore moins une contrainte, elle est une sagesse bienveillante qui vient de Dieu. Et dernière remarque, l'autorité n'est pas l'homme qui l'exerce, comme la vérité n'est pas le professeur. Il ne viendrait à l'idée de personne de dire que dans une classe, la vérité, c'est le professeur. Non, le professeur enseigne la vérité. Et il enseigne à des disciples qui sont capables de la saisir. Le professeur est un serviteur de la vérité. Il n'en est pas le maître, encore moins le propriétaire. Donc le pape n'est pas l'autorité suprême dans l'Église, il exerce l'autorité suprême, ou plus exactement, il a été chargé d'exercer l'autorité suprême, mais il peut arriver, et nous le voyons bien aujourd'hui, qu'il se couvre de la peau de brebis sans être une brebis, pour être un véritable loup. Il se couvre de la peau de l'autorité, mais il n'exerce pas l'autorité, parce que, les papes modernes, je dis bien, parce qu'ils vont à l'encontre de la sagesse de Dieu, à l'encontre de la vérité de Dieu, à l'encontre de la vérité de la foi et de la sagesse de la foi et de l'esprit de foi. Ce n'est pas nous qui leur dénions l'autorité, c'est eux qui la falsifient. Deuxième partie du sermon, pourquoi Dieu confère-t-il l'autorité aux hommes ? Parce que il a créé les hommes à son image. Cette image, c'est d'abord une image de sagesse, puis de bonté. Puisque Dieu a créé l'homme à son image, cela signifie qu'il lui transmet une part de sa grandeur, de sa lumière, de sa sagesse, de sa bonté. Il le fait parce qu'il y a un grand mérite à celui qui exerce l'autorité d'être ainsi à l'image de Dieu, et nous allons voir que tous les hommes sont dépositaires d'une part de la sagesse de Dieu, et donc tous les hommes ont une certaine autorité. Il est très rare qu'un homme n'ait aucune autorité. Dieu, en créant, communique sa noblesse. Mais comme sa grandeur est inimitable par un seul homme, il répartit entre plusieurs hommes tous ses dons, et donc il répartit entre plusieurs hommes l'exercice de son unique autorité. Il la répartit à des degrés divers, parce que c'est une deuxième vérité qui est très importante, à savoir que Dieu veut former l'homme à l'humilité, c'est-à-dire à la reconnaissance de sa grandeur, la grandeur de Dieu, pas la grandeur de l'homme, à reconnaître que cette grandeur qui est en l'homme vient de Dieu. Et un des meilleurs moyens, c'est que tout homme, même ceux qui exercent l'autorité, sont en même temps éclairés par d'autres qui ont sur eux soit une autorité supérieure, soit une autorité dans d'autres domaines. Et cet apprentissage de la soumission de l'homme, non pas une soumission d'esclave, cet apprentissage contribue énormément à montrer à l'homme qu'il dépend de Dieu, à le soumettre à Dieu. Et en le soumettant à Dieu, il devient capable d'être éclairé par Dieu. Car Dieu n'agit pas seulement dans les dépositaires de l'autorité en leur donnant une part de sa sagesse, il agit également chez ceux qui vont recevoir l'autorité en leur donnant une lumière suffisante pour recevoir cette autorité. Et la recevoir comme venant de lui, c'est-à-dire que celui qui écoute et qui suit celui qui exerce l'autorité, celui qui exerce, qui suit donc, sait qu'il se soumet à l'autorité de Dieu, c'est qu'il se laisse éclairer par la sagesse de Dieu, c'est qu'il reçoit une part de la sagesse de Dieu à travers celui qui la lui transmet. Et cela, c'est naturel. Tout homme cherche la lumière. Certes, il y a beaucoup de pécheurs, mais malgré tout, l'œuvre de Dieu est bien faite. Tout homme cherche la lumière, tout homme cherche la vérité, tout homme cherche l'autorité. Parce que tout homme précisément se sait faible et sait qu'il a besoin d'être éclairé par en haut. Et je vous disais que l'autorité se trouve à tous les niveaux de la société et pratiquement chez toutes les personnes. Pourquoi le roi a-t-il l'autorité, si ce n'est parce qu'il se soumet d'abord à la sagesse de ses prédécesseurs, à la sagesse de l'Église, à la sagesse de ses conseillers compétents et sages, à la sagesse de Dieu. L'évêque exerce l'autorité parce qu'il se soumet, lui aussi, à la sagesse de l'Église, à la sagesse de Dieu, à la sagesse de l'Évangile. Mais ils ne sont pas les seuls à détenir l'autorité. Il y a une autorité dans le métier, et elle est double. Dans le métier, il y a une autorité du métier, et puis également une autorité morale. Le père de famille a l'autorité sur sa famille. Certes, il a aussi un certain pouvoir, par exemple sur les enfants mineurs. Il sert à rien, évidemment, d'expliquer à des enfants ce qu'est la lumière de Dieu quand ils n'ont pas l'âge de raison. Mais le père détient essentiellement l'autorité parce qu'il forme des sages qui seront capables, à leur tour, d'être sages pour guider les autres. La mère de famille a-t-elle l'autorité? On pourrait croire que non, puisqu'elle est soumise à son mari. En réalité, oui. D'abord parce que justement, cette soumission lui confère l'autorité, comme la soumission du père de famille à tous ceux qui détiennent l'autorité lui confère sa propre autorité, et puis parce qu'elle a, d'une certaine manière, une autorité propre, en ce sens qu'elle à sa manière féminine, mais réelle, de pénétrer la sagesse de Dieu, qui n'est pas la manière masculine, et qui est cependant bien réelle. Lorsque, aux noces de Cana, la très sainte Vierge dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira, tout ce que mon fils vous dira », elle a sur eux une réelle autorité, parce qu'elle a pénétré justement la pensée de son fils. Et je voudrais vous parler également de l'autorité entre amis. C'est une des choses d'ailleurs qui est très puissante pour créer l'amitié, que de reconnaître l'autorité chez quelqu'un qu'on estime. Du coup, on reçoit sa sagesse, on la partage avec lui, et cela crée une amitié profonde. L'autorité est toujours bienfaisante. Si elle n'est pas bienfaisante, elle n'est pas l'autorité. Comme la vérité éclaire toujours. Si la vérité n'éclaire pas, ce n'est pas la vérité, c'est l'erreur. Vous allez me dire, mais alors comment reconnaît-on la véritable autorité de son simulacre de la même manière qu'on reconnaît la vérité de l'erreur? L'homme peut bien être trompé par de faux enseignements, mais il ne peut pas l'être surtout. Toujours, en tout, il arrive toujours un moment où le mensonge est dévoilé, à condition de chercher la vérité, n'est-ce pas? Parce que celui qui ne la cherche pas n'a pas à se plaindre d'être trompé, c'est ce qu'il cherche, par paresse, par intérêt, que sais-je. De même, un simulacre d'autorité peut tromper certaines personnes, mais pas tout le monde, toujours et en toute chose. Il arrive toujours un moment où les simulacres d'autorité sont dévoilés parce que Dieu a donné la lumière à tous les hommes pour cela. Et si les hommes ne veulent pas voir et discerner les simulacres d'autorité, c'est qu'ils l'ont bien voulu. Nous venons d'écouter un sermon de Mgr Lefebvre quasiment sur ce sujet, sur le sujet de l'obéissance, mais c'est un sujet très voisin. Et il dit que c'est par paresse que l'obéissance a envahi un champ qui n'était pas le sien, et que des hommes préfèrent se tromper avec leur chef plutôt que d'avoir raison contre lui. Ces hommes signent par là qu'ils n'aiment pas la vérité et qu'ils aiment le mensonge. Les religieuses nommées par François puis par Léon XIV n'ont aucune autorité, parce que Dieu, dans ce domaine, ne leur communique pas sa sagesse et sa lumière. Il peut, et de fait, il communique sa sagesse et sa lumière dans d'autres domaines, même à des religieuses. Il est évident que Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ont dans l'Église une très grande autorité, parce qu'elles sont sages dans les choses de Dieu, mais elles n'ont aucune autorité pour le gouvernement de congrégations dans l'Église, pour s'imposer au nom de l'Église, pour dire ce que doit être la vie religieuse concrète. Et de telles religieuses qui sont à la tête d'une congrégation peuvent donner à croire qu'elles ont de l'autorité, donner à croire qu'elles ont de la lumière, donner à croire qu'elles ont pénétré les pensées de Dieu pour diriger les hommes. Elles ne font que du plaquage, une mauvaise imitation. Elles ont gardé des habitudes, mais petit à petit, les congrégations qu'elles dominent seront de plus en plus humaines, de moins en moins divines, de plus en plus faussement éclairées par une fausse lumière humaine, et non pas vraiment éclairées par la lumière divine qui vient de Dieu. Autre application pratique, puisqu'il y a une crise de l'autorité, il faut la restaurer, tout d'abord en acquérant et en développant la sagesse, en acquérant des mérites qui donnent du poids à l'autorité. Le général Lapérine jeûnait pendant le carême avec autant de rigueur que les musulmans pendant le ramadan, et cela a contribué très fortement à faire respecter son autorité, ou plutôt à lui donner de l'autorité sur les musulmans qui reconnaissaient en lui un homme sage, même un homme de Dieu, bien qu'il ne soit pas religieux et qu'il soit un laïc. Il faut restaurer l'autorité en éclairant ceux qui ne sont plus éclairés, en remédiant à la défaillance de ceux qui devraient exercer l'autorité, en donnant le goût de chercher l'autorité, de chercher à s'y soumettre, de chercher à être éclairé. C'est ce qu'a fait Mgr Lefebvre. Puisque les évêques n'éclairaient plus le peuple fidèle, lui, Mgr, l'a éclairé, et le peuple fidèle a reconnu en lui un homme de Dieu. Le peuple infidèle, qui ne voulait pas de la lumière, qui préférait se tromper avec le pape plutôt que d'avoir raison contre lui, tous les hommes qui n'avaient pas le sens de Dieu ont refusé de voir ce que Mgr Lefebvre leur apportait. Et cela, Mgr Lefebvre n'en a pas tenu compte. Il n'était pas appelé à éclairer ceux qui ne veulent pas de la lumière de Dieu. Il était appelé à transmettre la lumière de Dieu, sachant que Dieu, de son côté, si je puis dire, éclairait les hommes de bonne volonté pour recevoir la sagesse, l'enseignement, l'autorité de Mgr Lefebvre. Je voudrais vous citer Jacques Catelineau, qui fut élu généralissime des armées vendéennes par des officiers de métier qui reconnaissaient en lui une sagesse qui dépassait les connaissances de leur métier, et c'était cette sagesse dont les Vendéens avaient besoin à l'époque. Plus que d'hommes et de chefs qui connaissaient les armes et les mouvements de troupes. Je voudrais vous citer en exemple également Saint Dominique Savio, qui avait sur ses camarades une très réelle autorité à cause de sa sainteté. Et il était rare que les camarades ne soient pas heureux de faire ce que Saint Dominique leur demandait, même lorsque c'était difficile. Et c'est ainsi que Saint Dominique Savio fonda la Compagnie de l'Immaculée. Saint Jean Bosco donna son accord à cette fondation, mais ce n'est pas lui qui est à l'initiative de cette fondation, c'est Saint Dominique. Et c'est Saint Dominique seul qui va enrôler ses camarades à la suite de l'Immaculée, et enrôler à la suite de l'Immaculée, c'est cela l'exercice de l'autorité. Parce que ce n'est pas l'exercice d'un pouvoir, Saint Dominique n'avait aucun pouvoir sur ses camarades, et c'est encore moins une contrainte. Je terminerai par une histoire personnelle. J'étais jeune, j'avais 19 ans, j'allais entrer en études supérieures. Je me préoccupais déjà beaucoup de ce que je devrais faire pour servir la chrétienté. Et comme j'avais étudié l'œuvre du président Salazar au Portugal, et que je connaissais de très bons Français qui étaient en exil là-bas, je décidai d'aller rendre visite. Je voulais rendre visite déjà au président Salazar. J'étais certain qu'il me recevrait, puisqu'il recevait sans rendez-vous tous les mercredis matins. Malheureusement, il tomba gravement malade, et je rendis visite à un homme que je ne connaissais pas, mais dont je me rendais compte qu'il avait une certaine autorité à cause de la sagesse de ses écrits. Je lui demandai donc ce que je pourrais bien faire. Et il me dit « Jeune homme, soyez un chef pour vos camarades ». Alors je lui répondis « Monsieur, vous ne me connaissez pas, je suis très timide, je suis incapable d'être un chef ». Et il me répondit du tac au tac « Jeune homme, quand on a des convictions comme vous en avez, on les partage avec ses camarades, on les enthousiasme pour cela, et c'est ainsi qu'on devient un chef ». Ce fut pour moi une révélation. On n'attend pas d'un chef qu'il ait des qualités pour s'imposer, on attend d'un chef qu'il ait des qualités pour transmettre l'amour d'un idéal. Un amour actif, bien sûr, mais d'abord transmettre l'amour de cet idéal. Alors je décidai de transmettre cet idéal. J'ai choisi pour amis des gens qui avaient un idéal très élevé également. L'un d'eux est devenu évêque, c'était un ami intime. Et puis voilà, vous connaissez la suite. Et c'est pour cela que j'ai quitté la fraternité Saint-Pédis, parce qu'elle étouffait l'autorité. Elle étouffait la sagesse, elle étouffait la lumière, elle étouffait l'idéal, elle étouffait l'enthousiasme. Tout cela sous prétexte d'autorité, c'est-à-dire en réalité d'efficacité. Et j'ai suivi Mgr Williamson parce que lui libérait l'autorité. Il la donnait de s'exercer, il encourageait à l'exercer. Il y encourageait d'une façon différente de cet homme que j'avais rencontré au Portugal. Mais en réalité, dans les deux cas, c'était la même chose. Jeune homme, transmettez cet idéal que vous avez reçu. Ne le gardez pas pour vous. Partagez-le et suscitez le même idéal, le même enthousiasme chez vos amis. C'est ce que je souhaite que vous fassiez vous aussi, auprès des vôtres et de vos amis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.